Nous ouvrons donc la deuxième séquence de cette conférence de presse qui nous conduira jusqu'à 12 heures où nous allons mettre fin à cette conférence de presse. Première question, nous allons rester ici à Kinshasa. Micro, oui, on peut commencer au bout là, s'il vous plaît. Allez-y, madame, ensuite on va passer au monsieur.
Du journal Opinion, une question pour monsieur Charles. Le 27e sommet de l'OIA s'est terminé à Kigali. Serait une note d'espoir pour la fin du conflit dans la région des Grands Lacs. Nous aimerions savoir ce que la MONUSCO envisage de faire pour aller sur la droite ligne de cette volonté africaine pour la RDC.
Avant le sommet, il faut dire que beaucoup d'efforts ont été déployés par les Nations Unies depuis le siège, en passant par l'effort entrepris non seulement par le représentant spécial ici en RDC, mais aussi l'envoyé spécial de la région des Grands Lacs, Monsieur Seyd Djini, et ces efforts continueront. C'est vrai que de façon globale, nous pouvons dire que à Kigali, Ban Ki-moon était présent donc dans les couloirs du sommet d'autres personnalités des Nations Unies étaient également présents là. De façon très concrète, c'est un travail continu pour nous qui a commencé depuis la MONUSCO et qui se poursuit aujourd'hui par l'effort que nous déployons pour soutenir non seulement le rétablissement de la paix et de la sécurité, la protection des civils, mais aussi pour essayer d'accompagner ce processus politique ici dans le pays à travers donc ces élections. Voilà un peu ce que je veux dire. C'est donc une continuité des différentes actions entreprises depuis longtemps pour soutenir le rétablissement total de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs à travers les différents efforts déployés par le représentant spécial et l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs. Deuxième question, je croyais que monsieur voulait prendre la parole.
Merci Charles. C'est une question d'actualité que nous avons tous suivie. Au moment où les Nations Unies se battent bec ongle pour mettre les acteurs politiques autour d'une table pour un dialogue apaisé, Denis Sassou Nguesso s'y invite en initiant un pré-dialogue dans son village à Oyo. Et ma question de savoir, sans l'implication de l'ONU, croyez-vous que le rassemblement des forces vives politiques issues du conclave pourra-t-il effectuer un déplacement vers Oyo? Et en cas d'échec de ce pré-dialogue, que peut-on attendre du dialogue qu'on souhaiterait se tenir d'ici fin juillet, alors qu'au même moment, le pré-dialogue est annoncé pour fin juillet? Y a-t-il compénétration entre les deux, ou à quoi ça ressemble, M. Charles?
À notre niveau, nous connaissons un dialogue, celui qui se passera ici en RDC et sur lequel nous essayons de déployer tous les efforts nécessaires pour appuyer cette facilitation de l'Union africaine. Comme la première question le disait tout à l'heure, une feuille de route a été donnée par la communauté internationale à travers la facilitation de l'Union africaine. Nous nous en tenons à celle-là. Les autres initiatives, nous n'en sommes pas officiellement informés et donc nous ne pouvons pas vraiment spéculer dessus. Nous nous en tenons pour nous à l'initiative nationale qui se tient ici à RDC, pour laquelle tous les efforts des Nations Unies, de la communauté internationale sont focalisés afin qu'elles puissent réussir. Nous allons peut-être prendre une question à Goma avant de revenir ici à Kinshasa. Goma, s'il vous plaît.
Merci, je suis Dido Kaimbe, journaliste Hop Channel Télévision, mais également de journal Info Populaire. Ma question concerne la situation à Kibirizi, mais également à Nyanzale, où depuis le début de la semaine, il y a toujours des exactions là-bas. Et la population accuse la MONUSCO d'être très passive par rapport à ces exactions de rebelles et n'agissent pas. Qu'est-ce que la MONUSCO peut dire par rapport à ça?
Je vais laisser la parole au porte-parole militaire. Ensuite, je compléterai donc éventuellement l'intervention du lieutenant-colonel Amouzou dessus.
Merci beaucoup. Vous savez que la situation à Kibirizi est complexe. Il s'agit de violences intercommunautaires. Et cette question n'est pas que militaire. Toutefois, depuis le début de cette situation, la force de la MONUSCO basée à Rwindi et Nyanzale, puisque Kibirizi est entre Nyanzale et Rwindi. Donc chaque jour, la force de la MONUSCO déploie des patrouilles à Rwindi en appui aux FADC qui sont sur le terrain. Et pour l'instant, c'est ce que nous faisons. Nous envoyons des patrouilles robustes pour appuyer les FADC afin de sécuriser la population civile en attendant que les autres acteurs impliqués dans le processus de paix s'engage. Merci beaucoup.
Ce que je peux dire en complément, tout comme à Bouléoussa, où nous avons vu effectivement des violences intercommunautaires provoquer pas mal de pertes en vies humaines notamment et de dégâts matériels, à Kibirizi également, la MONUSCO va s'engager de façon volontaire aux côtés des autorités provinciales pour entamer un certain nombre de rapprochements intercommunautaires afin que la paix, la convivialité puisse revenir dans ce milieu. Nous savons que à la base de toutes ces violences intercommunautaires, il y a aussi ces groupes armés qui soutiennent l'une ou l'autre des communautés. Et ce problème doit être effectivement réglé par les forces de sécurité congolaises en appui qui vont être appuyées par donc les forces de la MONUSCO. Et ça, c'est un travail qui devra être fait, et comme le lieutenant-colonel vous le disait tout à l'heure, c'est pas une question à régler en un tour de main. C'est une bataille de longue haleine sur laquelle nous sommes engagés depuis plusieurs mois et que nous voulons vraiment finir pour mettre en œuvre dans une certaine d'une certaine manière donc ce mandat de protection des civils que nous avons de la part du Conseil de sécurité. Nous restons donc à Goma pour prendre une autre question.
Oui, je suis Isaac Mastaki Baudelaire pour le compte d'Emmanuel TV. La nuit du dimanche lundi, il y a eu le Maïmaï Simba qui a attaqué le village de Papakombe, c'est à territoire de Béni. Ils ont tué un lieutenant âgé de 58 ans. Il a laissé des enfants. Je ne sais pas si la MONUSCO est formée de cela. C'est la localité de Papakombe. Merci.
Colonel Amouzou.
Merci beaucoup. Vous savez que la MONUSCO et les FADC sont en opération en ville et territoire de Béni, y compris la localité dont vous venez de citer. Et les FADC sont dans la zone dont vous venez de citer et je pense qu'ils sont en train de régler cette situation. C'est eux qui contrôlent cette zone-là. Je pense que le porte-parole des FADC est intervenu sur cette situation. Merci.
Retour ici à Kinshasa pour prendre sur la droite. Bon, commençons par là, voilà. Et ensuite, on va aller un peu plus au fond.
Merci. Moi, c'est Charles Kipingani, pour le compte du journal de Gouvernance Plus et www.gouvernanceplus.net.
Welcome.
C'est à tout moment que la MONUSCO nous relate la situation d'insécurité, principalement dans la partie est. La MONUSCO, via l'ONU, via la MONUSCO, maîtrise bien le circuit de commercialisation d'armes dans le monde. Est-ce que vous avez déjà pu identifier le vendeur ou ceux qui arment le rebelle pour qu'on parle toujours de l'insécurité et des massacres civils? Merci.
Vous avez dit les Nations Unies maîtrisent très bien les circuits de commercialisation d'armes. Là, je ne suis pas sûr, hein, parce que les Nations Unies ne sont pas dans ce genre de circuit. Les Nations Unies, de façon globale, essaient de ramener la paix et la sécurité à travers le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez. Donc, ces circuits sont des circuits des États membres, en réalité, des Nations Unies, qui commercialisent les armes. Donc, nous ne maîtrisons pas ces circuits-là. Cependant, c'est vrai, c'est notre devoir. Nous avons parfois, et je crois que c'est le cas, d'essayer de surveiller un certain nombre d'embargos sur les armes. Les experts des Nations Unies s'y emploient régulièrement à travers le monde. C'est pas des tâches faciles, car les circuits sont souvent très détournés, comme vous le savez. Dès qu'on maîtrise un circuit, d'autres circuits se créent pour toujours essayer de contourner éventuellement ces embargos sur les armes. Et ce que je peux dire ici en RDC, c'est pas une tâche prioritaire assignée à la MONUSCO dans le cadre de la résolution 2277. Cela dit, c'est dans notre intérêt effectivement, si nous pouvions connaître ces circuits-là, d'essayer de les bloquer pour couper les groupes armés des sources d'approvisionnement en armes. Et ça, ça aurait été une bonne chose. Et c'est pour cela que nous disons souvent, le lieutenant-colonel d'ailleurs le répète souvent, nous avons besoin de l'information. Parce que l'information aussi est capitale dans les victoires militaires. C'est pas seulement les armes de feu, les armes à feu qui sont importantes. Il y a aussi la recherche d'une information utile, déterminante, qui puisse faire la différence sur le terrain, notamment éventuellement perturber ou couper en tout cas les sources d'approvisionnement en armes des différents groupes armés. Voilà ce que nous pouvons dire. Il y a effectivement une main au fond là. Allez-y.
Allez, Waikani, l'agence de presse nouvelle. Charles, moi je m'intéresse au département civil de la MONUSCO, si bien que c'est l'armée qui fait toujours la une pendant la conférence. Ce que vous avez comme département civil, c'est aussi résoudre les conflits d'une manière pacifique, parler avec la communauté. Alors, comme maintenant, il y a les rebelles ou les miliciens dans l'est du pays opèrent d'une manière qui ne permet pas à l'armée d'intervenir toujours à temps, est-ce que ces départements-là connaissent que ces miliciens sont parfois déjà vécus au vie ensemble de la société? Qu'est-ce que vos départements civils jouent comme rôle au sein de la communauté dans la partie est du pays? Je parle par exemple du nord du Rumu où le FRPI aurait pris carrément avec les vols du bétail. Et vous savez la conséquence que ça peut apporter en Ituri par exemple. Est-ce que vous êtes engagé également sur ce terrain-là de négocier, de parler avec la communauté?
Tout à fait. Beaucoup de choses se font en dehors, effectivement, des actions militaires, des opérations militaires sur le terrain en appui au FARDC. Le département, par exemple, des affaires civiles de la MONUSCO est très actif à travers un réseau étendu, je dis bien étendu, dans l'est du pays, avec un certain nombre d'officiers ou de liaisons qu'ils ont. On les appelle communément les CLA au niveau de la MONUSCO. Et ces CLA sont représentés, sont à l'intérieur des communautés villageoises, des différentes communautés de l'est du pays, pour justement essayer de rapporter l'information utile à la force de la MONUSCO, c'est vrai, mais aussi aux différents services civils de la MONUSCO pour qu'elle puisse utiliser pour essayer d'intervenir utilement pour ramener la paix, la quiétude, la tranquillité dans ces zones-là. Donc, au-delà, effectivement, de ces actions militaires dont vous faites référence, beaucoup de travail de fond se font au niveau des différents départements civils de la MONUSCO sur le terrain, dans l'est du pays, pour la collecte de l'information, pour l'alerte même, avant même que des groupes armés puissent intervenir dans certains villages, dans certaines localités, ces personnes qui sont des employés du département des affaires civiles de la MONUSCO alertent donc les officiels de la MONUSCO, les responsables militaires de la MONUSCO, afin qu'elles puissent intervenir pour prévenir éventuellement des violences dans cette région de l'est du pays. Au-delà de la de ce département des affaires civiles, je suis sûr qu'au niveau de l'équipe pays également, beaucoup de choses se font en alerte pour essayer de prévenir ce genre de situation.
Oui, effectivement. Alors, en alerte, mais aussi en résolution, beaucoup d'agences des systèmes des Nations Unies, dans le cadre des projets de stabilisation, en appui à la stratégie I4S, la stratégie de soutien à la stabilisation de l'Est de la RDC. Donc, beaucoup de ces projets ont comme objectif de faire de la médiation communautaire, mais aussi de la résolution des conflits fonciers. Car vous savez que la plupart de beaucoup de conflits ont à l'origine des problèmes fonciers. Donc, c'est un effectivement, tout ce qui est médiation, résolution des conflits, ça fait partie des activités mises en œuvre par le système des Nations Unies dans son ensemble.
Merci. Nous allons partir à Goma et on va revenir ici. On a beaucoup de temps encore, ne vous en faites pas. Goma, s'il vous plaît, une première question. Présentez-vous et puis une question.
Oui, merci. C'est Norbert Mundouloa pour le journal Émergence. J'ai fait un retour à Kibirizi. J'ai suivi le porte-parole de FARDC. Le capitaine Djik parlait qu'ils ont limité les dégâts avec la MONUSCO à Kibirizi. Moi, je me demande, ou je demande au colonel Martin, si vous, avec les FARDC, vous serez simplement en train toujours de limiter les dégâts ou simplement vous allez empêcher ces dégâts. Merci.
Colonel Martin.
Merci beaucoup. Je disais tantôt que la situation à Kibirizi est très complexe, qu'il s'agissait de violences inter-ethniques, inter-communautés. C'est les communautés qui vivent ensemble. Comment pourrions-nous, forces de la MONUSCO et FARDC, savoir à quel moment ces communautés s'affrontent du moment où ils sont ensemble, ils vivent ensemble? Donc c'est quand nous sommes alertés que nous nous portons sur les lieux pour pouvoir protéger, pour pouvoir protéger les uns et les autres. Nous effectuons au jour le jour, comme de nuit, des patrouilles à Kibirizi. Les FADC sont implantés à Kibirizi, la force de la MONUSCO est implantée à Rwindi et Nyanzale. Tous les jours, il y a une patrouille de la force de la MONUSCO qui va à Kibirizi le matin et qui descend le soir, tout juste pour appuyer les FADC qui sont sur le terrain. Donc il faudrait savoir que la MONUSCO vient en appui aux FADC et que c'est les forces de sécurité et de défense de la RDC qui sont au premier chef de la protection des populations civiles. Merci.
Pour ajouter un peu à cette intervention du lieutenant-colonel Amouzi, il faut dire que peut-être que sans effectivement cette intervention des forces armées des FARDC et de la MONUSCO, la situation aurait été pire. Nous voyons ici que dans cette zone de Kibirizi, la population Hutu s'est vidée, a vidé notamment les villages environnants. Cette présence des forces onusiennes et des FARDC est dissuasive. Quant à la poursuite de telles exactions, plusieurs maisons, une dizaine de maisons a été brûlées. D'autres exactions, je crois qu'on craint même des pertes de vies humaines dans la zone, et c'est vrai qu'on ne pouvait pas laisser comme ça cette situation s'envenimer ou se dégrader davantage, et il a fallu donc effectivement essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et comme j'ai dit, il s'agit de violences intercommunautaires que nous avons déjà connues dans cette région. Il faut, au-delà de l'aspect militaire, essayer de conjuguer les efforts pour réconcilier ces communautés qui, traditionnellement, ont toujours vécu dans cette zone, dans la paix, dans la convivialité. Il faut que cet esprit communautaire puisse revenir. Et c'est pour cela que je disais et j'insistais sur le fait que les autorités provinciales doivent prendre le leadership, avec l'appui, bien sûr, de la MONUSCO, pour pouvoir essayer de ramener la paix dans les cœurs afin que cette zone puisse retrouver la paix, le calme, la quiétude qu'elle a souvent et toujours connue dans le passé. A-t-on une autre question à Goma avant de revenir ici à Kinshasa? Oui, allez-y.
Merci beaucoup, c'est Maurice Nduik au compte de Michapi Voice TV. Ma question s'intéresse à Charles-Antoine Bambara. Les chargés des droits humains ou des droits de l'homme au niveau de l'ONU et ici au pays, est-ce que les droits des Congolais qui ont été violentés, les femmes qui ont été violentées à Beni par les éléments des forces de la MONUSCO continuent à être pris en compte? Dès lors qu'on sait que les rapports viennent de faire 3 mois, on n'a jamais publié un seul rapport pour dire qu'on a trouvé sûrement des violations qui ont été commises contre cette population congolaise. Tous les mois, nous suivons les bureaux conjoints des droits des hommes, de l'homme, publier les rapports. Mais ces rapports-là tardent toujours à venir. Est-ce que vous voulez faire présenter ces rapports? Merci.
Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a une mission très spécifique, c'est effectivement décourager toute violation des droits de l'homme à travers sur l'ensemble du territoire ici en RDC. Ce bureau conjoint, effectivement, vous pouvez l'interpeller pour voir si oui ou non des rapports ont été oubliés. Pour notre part, je crois que pour les différents rapports en ce qui concerne les casques bleus, nous avons fait le suivi. Si vous voulez plus de détails, posez-nous des questions particulières, spécifiques. Nous allons nous adresser à qui de droit. Ce genre de situation, ce genre de suivi est fait par la section conduite et discipline de la MONUSCO et non par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et donc cette section, nous pouvons les interpeller pour qu'ils partagent avec nous, parce que vous savez que du siège des Nations Unies jusque dans les autres représentations des opérations de maintien de la paix, il a été décrété une tolérance zéro en ce qui concerne donc les violences sexuelles et les abus sexuels, et donc cela est appliqué à la lettre. Nous voulons donc, si vous avez une question spécifique, que vous nous l'envoyez et on va vous répondre de façon claire et nette, car sur ce chapitre, rien n'est caché, et c'est ce que veut d'ailleurs le secrétaire général des Nations Unies. Retour ici donc à Kinshasa, où nous allons prendre une question là avant de remonter la file.
Sonia Rollet de RFI, à propos de Kibirizi, on sait que dans cette zone-là, les violences sont aussi dues à l'instrumentalisation par les groupes armés, le NDC Rénové de Guidon et les FDLR qui donc sont aussi derrière ces tensions. Pourquoi est-ce qu'en préventif, il n'y a pas des actions qui sont menées contre le NDC Rénové de Guidon, alors qu'on sait qu'il y a des opérations contre les FDLR? Et à propos du massacre de Tenambo, qu'est-ce qu'a donné la mission d'évaluation de la MONUSCO? On sait que les FRDC ont déjà sanctionné un capitaine pour son inaction lors de ce massacre à Beni. Est-ce que la MONUSCO a pris des mesures pour permettre la prochaine fois au casque bleu de sortir et éventuellement prendre des sanctions si les consignes n'ont pas été respectées?
Le premier volet de cette question va être répondu par le colonel Amouzou. Et ensuite, je prendrai la deuxième partie, bien entendu. Bonjour.
Oui, merci beaucoup. Vous savez, l'opération Nimuragira, actuellement en cours et dans les autres territoires de la province du Nord Kivu, prend en compte les FDLR et tous les groupes armés sans exception, y compris le NDC Guidon. Donc, la MONUSCO a été mandatée pour neutraliser tous les groupes armés sans exception, et c'est ce que nous faisons sur le terrain en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et hier même, il y a eu une opération conjointe MONUSCO-FARDC dans la zone du lac Édouard, où nos troupes ont été déployées en plus de celles des FARDC sur le terrain. Et nous attendons le bilan de cette opération. C'est pourquoi je n'ai pas communiqué là-dessus. Il faudrait savoir que nous, MONUSCO, nous sommes mandatés pour neutraliser tous les groupes armés sans exception, y compris le NDC Guidon. Merci beaucoup.
Par rapport, pour le deuxième volet de votre question, il faut dire que, à notre demande, nous avons donc sollicité effectivement les conclusions de ce rapport. Traditionnellement, nous a-t-on dit, les conclusions du rapport sont remises au leadership de la mission, qui, en ce moment, après analyse, rend public ce qu'elle veut rendre public en termes de résultats de cette enquête. Il s'agissait en fait d'une mission de vérification des faits. Je dis bien une mission de vérification des faits parce que le terme anglais, c'est le « fact-finding mission ». Et donc, c'est vraiment une mission de vérification des faits. Et donc, à notre connaissance, ce rapport a été remis ou devrait être remis dans les jours qui viennent au chef de la mission, qui donc communiquera en temps et heure voulu sur ces conclusions-là. D'autres questions ici? Oui? Il y a beaucoup... Oui, allez-y.
C'est Monsieur Dany Ngouba du journal La Prospérité. Ma question est pour Madame Florence Marchal. En principe, c'est aujourd'hui que devait commencer la campagne de vaccination contre la fièvre jaune, notamment à Kinshasa. Et j'aimerais savoir quelles sont les informations que vous avez par rapport à ça et par rapport à la situation de la fièvre jaune à Kinshasa et dans les deux autres provinces dans lesquelles était déclarée cette épidémie. Et autrement, à Monsieur Charles Bambara, j'aimerais demander si la MONUSCO va soutenir le processus de révision du fichier électoral que va lancer, que d'autres appellent, donc en fait, constitution d'un nouveau fichier, que la CENI va lancer au Nord Ubangi le 31 juillet.
Alors, vous avez raison. D'après les informations qui nous ont été communiquées ce matin par l'Organisation mondiale de la santé, une campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune a commencé ce matin, à la fois dans la zone de santé de Kisenso, dans la province de Kinshasa, mais aussi dans d'autres zones de santé situées dans la province du Kwango. Cette campagne de vaccination doit durer jusqu'au 29 juillet de cette année. Alors, à la date du 11 juillet, on avait recensé 1798 cas suspects de fièvre jaune avec au moins 85 décès. C'est ce qui avait été rapporté par le système national de surveillance. Alors, c'est dans ce contexte que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et l'UNICEF, ont mobilisé plus $1,5 million de dollars américains des fonds humanitaires d'intervention d'urgence pour renforcer leurs activités à la fois dans le domaine de la prise en charge clinique des cas de fièvre jaune, de la surveillance épidémiologique et de la lutte antivectorielle, de la communication et de la mobilisation sociale. Dans la seconde moitié du mois d'août, une campagne de vaccination préventive sera organisée dans 47 zones de santé, dont 32 à Kinshasa et 15 aux frontières avec l'Angola.
Pour le soutien à la révision du fichier électoral, une opération pilote d'ailleurs dans la zone de Badolite, il faut dire que la MONUSCO va soutenir au plan logistique cette opération, et non seulement au plan logistique mais aussi au niveau des bons offices. Vous savez que le matériel lui-même technique n'est pas encore arrivé sur place, et plus tard, comme vous le savez, la résolution 2277 le dit, s'il y a un besoin de soutien technique, nous verrons ça une fois que le matériel technique sera déployé sur place. Mais pour l'instant, oui, le soutien logistique est en place et le soutien aux bons offices également est activé. Nous allons prendre sur la gauche, la droite plutôt ici, une question et peut-être repartir du côté de Goma. Allez-y.
Oui, merci Albert Omba Numérica. Je reviens sur Kibilizi où vous avez constaté que les opérations, ça, je m'adresse au lieutenant-colonel Amuzun, que la MONUSCO intervient la journée et rentre à ses postes de Nyanzale et de Kasindi. Ce qui fait que la nuit, c'est le moment où les groupes armés opèrent. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'envisager une installation définitive dans cette contrée pour empêcher ces interventions nocturnes des groupes armés?
Colonel Amuzu, y a-t-il oui ou non des patrouilles nocturnes dans cette zone de Kibirizi?
À Kibirizi, il y a un renfort de FADC sur place à Kibirizi. La force de la MONUSCO va à Kibirizi pour appuyer les FADC qui sont en place à Kibirizi. Et actuellement, des emplacements sont en train d'être recherchés dans la localité pour pouvoir installer une base temporaire à Kibirizi. Ça, je ne l'ai pas dit parce que ça fait partie de notre stratégie. Il ne faudrait pas que je donne l'information là au micro. Merci.
Nous restons à Goma pour prendre une question avant de revenir ici. Goma, s'il vous plaît. Qui a le micro à Goma? Personne? Bon.
Oui. Ok. Alors, mon nom c'est Frédéric Ferruzzi pour Radio Sao Kenjili. Alors, au-delà de l'aspect interethnique du conflit de la nuit de lundi passé, on sait que dans la région de Kibirizi, dans la région de Buito d'une façon générale, il y a des attaques sporadiques qui sont menées de temps en temps par des groupes armés. Et selon en fait la société civile, la force conjointe MONUSCO et FARDC est sous-représentée. Du côté des FARDC, on parle par exemple des transmilitaires seulement. Et du côté de la MONUSCO, une quasi-absence dans la région de Buito d'une façon générale. Et les samedis passés d'ailleurs, la société civile avait annoncé des tracts qui avaient été lancés par, je ne sais pas, des FDLR pour justement annoncer cette attaque-là des semaines dépassées. Je ne sais pas, du côté de la force de la MONUSCO, comment vous justifiez une telle passivité et cette sous-représentation qui aurait facilité l'attaque de lundi passé.
Merci beaucoup. Je vous disais tantôt que le FADC et la MONUSCO sont en opération à part le territoire de Beni et de Lubero, où l'opération Samalama est en cours. Dans le reste des territoires de la province du Nord Kivu, nous menons l'opération Nyamunagira. Et l'opération Nyamunagira est contre l'FDLR et ses alliés. Si je parle d'alliés, c'est tous les groupes Maïmaï. Et en moins de 2 semaines, la MONUSCO est intervenue avec ses hélicoptères d'attaque 5 fois sur les objectifs militaires des FDLR dans le Rutshuru. Je disais tantôt qu'hier, qu'il y a eu une opération MONUSCO-FADC, intervention de nos hélicoptères d'attaque et en plus des troupes au sol, que ce soit des troupes de FADC ou des troupes de la MONUSCO, des forces spéciales de la MONUSCO. L'opération a commencé aux environs de 9h et a pris fin dans la soirée. La MONUSCO et les FADC ne sont pas restés inactifs par rapport à la neutralisation de ces éléments nuisibles, de ces éléments criminels. Nous menons toujours nos opérations contre les FDLR. Nous ne sommes pas restés inactifs, comme vous l'avez dit. Nous travaillons ensemble avec les FADC et nous joignons les efforts pour pouvoir venir à bout de ces criminels. Merci.
Une courte question ici. Enfin, le micro, moi, je ne l'ai pas. Hein. Donc, oui, une dernière question.
C'est Serge Germain de Pré pour l'école de géopolis. À la lumière de la question, vous posez
pour... Bon, nous avons un petit souci technique. Quelqu'un peut peut-être faire signe là. Allez-y pour la question.
Saint-Germain des Prés pour les comptes de géopolis. À la lumière de la question posée par ma consoeur de l'opinion, vous avez évoqué la présence des Ban Ki-moon dans les couloirs du sommet de Kigali. Les nouvelles en provenance de ces sommets font état du souhait des chefs d'État africains de quitter la CPI. Les raisons y sous-jacentes.
Bon, désolé, nous avons des travaux en haut de ce bâtiment et c'est pour cela qu'il y a tout ce bruit. Donc, les collègues de la CPI ne sont pas là. Ça va être difficile pour nous de répondre à votre question.
Il parlait du souhait des chefs d'État de quitter la CPI. Ils avancent comme raison.
Bon, désolé pour tout cet inconvénient. Je pense que nous allons mettre fin ici à cette conférence de presse. Merci, à la semaine prochaine.